Cette émission vous est offerte par la bière Wachtleiner, aussi nommée Sikavi, une bière internationale d'origine allemande depuis 1753, distribuée au Togo par la SNB. Wachtleiner, la vie dorée.
Je suis très heureux de vous retrouver sur La Nouvelle Génération. Bonjour, merci de nous choisir dans cette émission Club de la Presse. Vous le savez bien, le rendez-vous, c'est de lundi à vendredi à partir de 11h sur votre radio. Nous y sommes et merci pour votre fidélité sans cesse renouvelée. Demain vendredi, des organisations de la société civile organisent une marche citoyenne en hommage aux victimes de violences et pour promouvoir la paix et la cohésion sociale. La manifestation va démarrer à 11h avec Condédi pour sa achevé à la Vista Park, près de la lagune de Baie. Selon ces organisations, cette marche se veut un symbole fort d'unité, d'apaisement et de solidarité envers les victimes, tout en portant un message d'espoir pour un avenir plus harmonieux au Togo. Le sujet nous intéresse, nous allons l'aborder bien sûr dans cette émission Club de la Presse avec professeur David Dossé, porte-parole du Front Citoyen Togo Debout, l'une des organisations initiatrices de cette marche citoyenne, et nous parlerons d'autres sujets liés à l'actualité dans notre pays dans cette émission Club de la Presse de ce jeudi 24 juillet 2025. Bienvenue au club. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Thomas Etek aussi d'ATV assure la mise en onde. Jérôme Akouté est à la mise en ligne. Je suis Pascal Lossou au micro. Comme toujours, vous le savez très bien, vous pouvez nous suivre alors sur nos médias partenaires en ligne, notamment nos radios partenaires qui sont des radios telles que Radio Lumière à Anéko, Radio La Paix à Takpamé, Central FM à Sokodé, Sky FM à Badou, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Niamtougou et puis Radio Koktouazi à Dapaon. Vous le savez bien, vous avez aussi ce privilège de nous suivre partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales, notamment notre chaîne YouTube, aussi notre page Facebook. Vous pouvez nous suivre aussi sur notre site internet www.canalfm.com, sans oublier nos radios partenaires en ligne Ibn Radio et Radio Les Bélais. De la presse, c'est le décryptage, l'analyse, le débat sur l'actualité de notre pays, le Togo, du continent africain et aussi du monde entier. C'est avec nos confrères journalistes en studio avec moi. Ambroise Kondo, bonjour.
Oui, Pascal, bonjour. Bonjour nos amis qui sont derrière la belle vitrée. Bonjour tous ceux qui nous suivent, toutes celles qui nous suivent depuis Lomé et de ses environs, ceux qui nous suivent sur les radios partenaires de l'intérieur. Et ceux de la diaspora aussi, nos amis du M66 aussi, puisque c'est des Togolais qui nous suivent depuis l'extérieur. Je voudrais profiter de cette occasion pour envoyer ce message à l'état-major des armées du Togo, que des alertes ou des informations nous viennent depuis les frontières, surtout les frontières qui sont à Lomé, que ce soit à Kpokpolé, Casablanca, et à Vatame et tout ça,
qui sont les bits 9,
souvent c'est le bit 9 au niveau de Yonkonakwe, qu'on a copié là-bas, que les Togolais qui ont construit derrière la frontière, ils sont nombreux, hein. Ces gens-là, je peux me tromper, si on les estime à 50 000, c'est-à-dire qu'ils sont très nombreux à construire derrière la frontière. Et beaucoup viennent faire les activités ici, retournent le soir vers 18h. Dans leur domaine, parce que on veut être proche de Lomé pour mener ses activités, mais on n'a pas les moyens pour acheter le terrain. Même quand vous êtes à Zanguera, le terrain est déjà cher. Même actuellement, à Ngwepe, à Kepe, c'est cher. Et donc, on prend souvent 100 francs au niveau des militaires qui sont de notre côté. Au départ, les Ghanéens, les frontaliers ghanéens ne prenaient rien. Maintenant, eux aussi, ils prennent.
Maintenant, c'est 200, ils prennent combien?
Ils prennent 100 francs. Quand tu donnes 100 francs au militaire togolais qui est au niveau de la douane ici, au niveau de la frontière ici, et au retour, tu fais encore 100 francs, tu fais 200. Maintenant, les militaires ghanéens aussi ont commencé à prendre. Parce qu'ils disent que leurs collègues togolais prennent, donc eux aussi vont prendre. Et ça pénalise nos frères et sœurs qui sont là-bas, les enfants qui vont à l'école, qui viennent ici, au niveau de Casablanca, au niveau de Toko-Ouest, les gens qui travaillent, faut venir à l'école. C'est vrai, les militaires, ils laissent. Je crois que les enfants, on laisse souvent les enfants. Bon, je sais pas trop, mais c'est, est-il dit qu'il y a quand même. On prend de l'argent. Maintenant, quand les autres, ils prennent 200, allez, 200, retour. D'ailleurs, 200, 200. Si tu veux deux ou trois, ça, c'est toute une fortune. Alors qu'il n'y a pas d'argent dans le pays. On a fermé les frontières le 17. Il me semble jusqu'à présent, les frontières ne sont pas encore ouvertes. C'est-à-dire que c'est l'argument.
Mais est-ce que ce n'était pas pour juste la journée à l'heure du 17?
Quand on ferme une frontière pour une élection, le lendemain, en même temps, on ouvre. Je ne sais pas si c'est la peur du fait que les gens, nos autorités, ne nous pas.
Mais est-il du non, je pense que les bits étaient fermés, les petits...
Ah,
les
comme
petits
d'habitude, petits, depuis la nuit des temps.
Étaient fermés d'abord avant, même d'ailleurs, le 17.
Ah, oui. Donc cette fermeture continue. Et ça pénalise ceux qui sont de l'autre côté de la frontière, qui sont pratiquement 98% des Togolais. Parce que ils sont nombreux. Depuis Bit 9 jusque à Kato, ils sont nombreux. C'est la frontière qui moi, ne serait-ce que c'est au niveau du Grand Lomé. Et donc, c'est une sonnette d'alarme que nous tirons pour attirer l'attention des autorités du gouvernement que ça. Ça ne va pas là-bas. Il n'y a pas d'argent dans le pays. On n'a pas de gouvernement. L'argent ne circule pas. Maintenant, ceux qui se débrouillent avec leurs enfants, l'allocation, un loyer allumé, ça ne fait pas ce que c'est. Et donc, les gens ont préféré aller faire un prêt pour aller construire quelque chose, acheter un peu de terre. Ils l'ont fait. Les gens ont fait des tôles. Ne sont-ce que des tôles, ils n'ont pas construit. Mais ils sont fiers d'être chez eux, quoi. Donc, laissez-les venir et repartir. Et si vous vérifiez, peut-être la personne a une carte électeur ou la personne a une carte. Bon, on peut exonérer des 100 francs et des 200 là.
D'accord. Merci beaucoup, Ambroise Pondreau, d'avoir accepté notre invitation. Et nous attendons incessamment professeur David Doucet qui va nous rejoindre, bien sûr, pour cette émission. Ambroise, c'est vrai, vous êtes dans les kiosques ce matin. Je veux bien parler de votre journal de Guadian. De Guadian, bien sûr, de Guadian. Et certainement, de Guadian s'est prononcé sur ces élections municipales puisque c'est ce qui cristallise plus l'actualité ces derniers temps avec les résultats qui sont connus depuis le lundi et les résultats qui font état de ce qu'il y a déjà l'UNIR qui a occupé la grande partie même d'ailleurs des sièges pour ce qui concerne les conseillers municipaux et on parle même il y a pratiquement 75,31%, c'est bien ça. Et comment vous appréciez d'abord ces résultats?
Oui, mon appréciation par rapport au résultat donné par la CENI, d'abord, la première fausse note en la forme, c'est que je fais juste un exercice de comparaison des résultats des taux de participation entre 2019, en juin 2019, et celui de juillet 2025. On nous parle d'un taux de participation de 2%.
Oui, 55,2%
pour cette année, où on n'a vu pratiquement personne en queue devant aucun bureau de vote, que ce soit Lomé, Adapaon, parce que là où le ministre Barké, selon des témoignages, a voté, il y avait quand ça quelque chose, c'était juste 44 personnes qui étaient là avec le monsieur, ils ont voté. D'accord. Maintenant, 55,2% avec pas d'affluence. Maintenant, en 2019, moi, je me rappelle, on était en queue. Au moins une vingtaine de personnes étaient en queue. De par endroit, ou bien par endroit, il y a 30. Parce qu'il y avait un engouement, il y avait une mobilisation générale. Puis c'est la première fois qu'on vote réellement pour les élections municipales. Et donc, ça excitait les gens à aller voter pour consacrer ne serait-ce que ce qu'eux, ils appellent la décentralisation. Cette année, tu imagines qu'on trouve un taux de 55%.
55,5%
contre 52%. Les gens étaient sortis massivement en 2019, 55%, 52%. Oui. Et cette année, où il n'y avait personne pratiquement devant le bureau de vote.
Et on va me dire qu'il n'y avait personne, Ambroise, puisque vous étiez
une
partie.
C'est une façon de parler, c'est une façon de dire que comparativement à ce qui s'est passé en 2019, il n'y a pas match, quoi. Il n'y a pas match. Imagine, on parle de plus de 100 000 quelque chose inscrits dans le GOF 2. C'est 8 000 qui ont exprimé comment on dit ça, leur vote. Il faut faire le ratio. Et donc, ça, c'est sur le plan au niveau du taux.
Ah, mais donc,
au
niveau de son... sur ce point, de quoi vous diront quand même que Goff 2 n'est pas nommé et Goff 2 n'est pas le
taux. Non, c'est juste pour vous dire ce que je dis par rapport à Dapon dans le fief de M. Baquet et ce qui s'est passé à Goff 2. Pratiquement la même chose. À Goff 7, peut-être, c'est la même chose. Ça veut dire que même quand vous allez à Mango, sûrement on vous dira la même chose. Quand vous allez à Thélier, on vous dira la même chose. Parce que les gens n'ont pas déployé leur dévouement pour ces élections pour plusieurs raisons. Peut-être on va y venir. Maintenant, par rapport même à la victoire dont on parle, ou aux chiffres présentés par la CENI, par rapport aux différents partis politiques qui auraient gagné tel ou tel nombre de conseillers, 115 vues cachées comme ça, j'ai compris que le système en place, le régime de M. Faure Gnassingbé, a essayé de prendre des expériences par rapport au passé, en 2019. Les choses ont été plus ou moins correctes. Il y a eu des fraudes, et les fraudes ont plusieurs dimensions. Hein. Les gens viennent pour intimider, le bourrage des jeunes, tout ça là. Mais cette année, j'ai l'impression qu'ils ont carrément laissé tout cela pour donner des cadeaux à ceux qui travaillent avec eux. Quand vous voyez, si vous allez voir, l'UFC est venu en troisième. Ce qui est incommensurable. L'UFC est venu en troisième position. Tovia, je ne refuse pas, peut avoir des voix dans Lomé et ailleurs. Mais Tovia a eu plus de 30% de conseillers.
Oui, il y avait pratiquement pour Tovia 17 listes, hein, puisque oui. au nord du pays aussi, Tovia a
présenté. C'est surprenant, parce que Tovia est créé, ça fait à peine 2 mois ou 3 mois. Ça ne fait même pas 2 mois.
Mais c'est des acteurs politiques qui sont sur la scène.
Oui, je sais qu'on peut. Je n'ai rien contre Tovia. Je sais qu'il y a. Puis il y a. Moi, j'ai plein d'amis dans ce regroupement-là. Je sais que Tovia a des gens, puisque des fois, le Togolais vote par représentation physique de la personne qui incarne le parti. Des fois, il vote aussi par le nom simple du parti. Pour les programmes, même les partis politiques s'en foutent. Les Togolais aussi s'en foutent. Donc, la DMP, par exemple, qui occupe un espace avec plusieurs partis politiques, ça le trouve avec plusieurs, je crois, 20-21. Maintenant, l'ANC, à qui on attribue 52 ou 54, comme ça, j'ai été surpris, j'ai dit, mais, et vous prenez tout. J'ai l'impression qu'ils ont tout pris, quoi. Ils ont aussi découvert que, ah, là-bas, si on peut frauder, on peut faire des chiffres parce que personne ne nous dira rien. On a l'argent, on a les armes, on a des milices, on a tout. Et c'est ce qu'on a vu comme tableau. Maintenant, en attendant de te laisser la parole, le manque d'engouement pour ces élections, l'absence des électeurs devant les bureaux de vote, comment on peut l'expliquer? Nous, on a trouvé trois raisons. C'est dans notre article-là. La première raison, c'est que d'abord, les Togolais sont décontenancés, sont fatigués de tout ce qui est la chose électorale. Depuis pratiquement, surtout à partir de 2005, 2010, 2020, où Adome avait gagné, mais on a dit que niet. Jusqu'en 2018, où le summum a été atteint, où il n'y avait même pas de oiseaux à Lomé, pourtant on nous a sorti un taux de plus de 50%, comme quoi il y avait un taux de participation, c'est aux législatives. Et les conséquences qu'on a tirées de ça, on a eu une assemblée qui est pratiquement monocolore. Le Sénat vient de cette loi-là, que les députés, les quelques députés ont modifié ou ont changé la constitution. Et aujourd'hui, les Togolais se sont dit, mais tout ce que nous votons, ça ne sert à rien. Les deuxièmes personnes, c'est ceux-là qui ont été incités par le M66 qui va boycotter, et ces gens-là disent, mais ces messieurs-là ont fait manifester les gens depuis l'extérieur, mais autant les soutenir, on ne va pas aller voter. Les gens ont soutenu le front touche pas ma constitution, les gens ont aussi suivi l'appel du front touche pas ma constitution, qui a dit qu'ils ne vont pas aller voter. Et la dernière personne, c'est ceux-là qui ont eu peur de pouvoir tomber en un endroit, en mauvais endroit, un mauvais moment par rapport aux manifestations que le MCC a lancé le jour du vote. Et donc, ce qui fait que vous allez vous trouver, tout est vide. Maintenant, et pour finir, moi, le bilan que je fais, c'est que ces élections ont été une mascarade. Je prends juste le mot
de M. Nathanaël. C'est pas trop, là.
Non. On l'a dit, bourrage d'une. Tu imagines, vote massif par dérogation. Dans le golfe de toujours, il y a 8000 votants, 8000 quelque chose votants. 3800 quelque chose ont été votés par délégation. Ça y est, tu viens avec 100 bulletins, quoi. Ça y est, c'est pas de délégation. 100 mandats. J'ai des enregistrements. c'est ahurissant. Pascal, c'est ahurissant que qu'on puisse avoir tous les députés, tous les sénateurs, tous les conseillers régionaux et en même temps tous les conseillers municipaux qui sont des gens qui travaillent avec les populations à la base. Je laisse.
Merci Ambroise. Et nous sommes rejoints par professeur David Dossé. Professeur, bonjour.
Bonjour, bonjour également à tous ceux qui nous suivent.
Professeur, j'espère que vous allez bien.
Un peu fatigué, mais ça va.
D'accord. Dieu merci. L'essentiel qui est vraiment le souffle de vie. Et donc, on remercie le ciel pour cela. Alors, professeur, c'est vrai que nous sommes en train de parler alors des municipales du 17 juillet dernier. Et les résultats sont connus. Nous avons aujourd'hui pratiquement 1150 conseillers municipaux pour le Parti Uni et les 337 conseillers municipaux sont répartis entre des partis politiques et aussi des regroupements de partis politiques et également des indépendants qui ont participé à ces élections. Alors, pour vous, déjà pour quelle appréciation vous faites alors de cette élection d'abord avant de venir sur les résultats?
Moi, je rejoins totalement Ambroise dans ce qu'il a fait comme analyse, en disant que le processus électoral de 2025 rejoint malheureusement une fois encore ce qu'on a toujours vécu au Togo en matière d'organisation d'élections. C'est donc des processus qui sont totalement viciés, qui ne sont pas du tout proches des standards internationaux, et cela témoigne tout simplement de cette boulimie du pouvoir qu'on n'a jamais cessé de dénoncer. On a le sentiment que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, qui sont responsables d'une mauvaise gouvernance parce que le pays ne va pas bien. Au niveau politique, c'est une évidence. Au niveau économique, ce ne sont pas les opérateurs économiques qui vont contredire, voilà, c'est ça. Et au plan social, ils ne sont pas en mesure de construire, de reconstruire le tissu social. Et donc, responsables d'une mauvaise gouvernance, ils organisent des élections et à chaque fois, ce sont des scores à la soviétique. Comme s'ils étaient vraiment les meilleurs dirigeants au monde et que le peuple n'a soif que d'une chose, c'est de voir unir, continuer de conduire la destinée du Togo. Voilà. Donc c'est vraiment la même appréciation. C'est un pouvoir boulimique qui ne veut rien lâcher, qui veut tout prendre. Et malheureusement, cela ne permettra pas au peuple togolais de s'épanouir. Cela ne permettra pas au Togo d'aller de l'avant et de devenir un pays développé.
Eh bien, professeur, c'est vrai que nous avons connu les résultats. Les journaux sont revenus sur ces résultats ce matin. Il y a Chronique de la Semaine qui écrit « Municipal de juillet 2025, le scrutin accouche d'un taux exemplaire et honorable de 55,02% de participation. Sans surprise, Uni confirme sa popularité. » Un raclant provisoirement 75% de sièges de conseillers. Autre journal qui s'intéresse bien sûr au sujet, c'est le journal Actu Express. Actu Express qui titre municipal 2025, Uni se taille la part du lion, suivi de loin par l'ANC. Et le journal qui écrit intégralité des résultats de la CENI dans les 117 communes. Et autre journal bien sûr qui bien sûr a écrit sur le sujet, Ambroise de Guadian, tel que je le disais, vous avez écrit aussi sur le sujet, vous écrivez « Élection municipale du 17 juillet au Togo, pas d'affluence, vote multiple, procuration à monsieur tout le monde et bourrage d'une. » Oui, professeur, c'est vrai, nous avons connu aussi les résultats, mais est-ce que vous avez été surpris des résultats?
Non, du tout. Je pense que si quelqu'un dit aujourd'hui qu'il a été surpris du fait que Unir se soit taillé la part du lion, je pense que cette personne ne connaît pas bien la politique du Togo, en tout cas telle qu'elle est conduite par le régime en place. Nous étions déjà pour les élections l'élection présidentielle de 2020. Le Front Citoyen Togo Debout avait sorti un rapport. Et je crois que ce rapport mettait suffisamment en évidence le système de fraude, en tout cas en partie, parce que il y en avait tellement en matière de fraude que nous n'étions pas en mesure de faire un rapport exhaustif. Mais je me souviens de la réaction de Monsieur Olivier Hama, que je salue au passage, qui avait dit que c'était vraiment une des rares fois où une organisation de la société civile avait pu lever un coin de voile sur le système de fraude. Nous avions, par exemple, Monsieur Ambroise vient d'en parler, nous avions démontré qu'il y avait des centres où on avait près de 40% en termes de vote par procuration. 40%, c'est énorme. C'est inadmissible. C'est
mais, ce qu'il a dit. Mais au-delà de tout, ce sont les chiffres de la CENI que nous avons aujourd'hui. Oui. Et il n'y a plus d'autres chiffres pour contredire ces chiffres.
Oui, de toute façon, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Nous savons que c'est comme ça que les processus électoraux sont conduits. Jusqu'à une certaine époque encore, il y avait cette tendance à vouloir cacher la fraude, à vouloir masquer la fraude. Mais maintenant, cette fraude se fait à visage découvert parce que malheureusement, nous n'avons pas un système de justice en mesure de prendre les décisions adéquates. Il y a des gens qui sont filmés en train de mettre plusieurs bulletins dans l'urne. Je pense que si nous étions dans un état respectueux avec des institutions crédibles, très rapidement, ces personnes devaient se retrouver devant le système de justice. Qu'est-ce qui s'est passé? On vous a filmé. Quelles sont les explications que vous avez données? Et si il est clair que ces personnes étaient en train de pratiquer un système de fraude, mais est-ce que vous imaginez? Nous sommes 8 500 000 et que quelques-uns s'arrogent le droit de changer la destinée de notre nation en pratiquant des systèmes illégaux et que la justice ne puisse rien dire. C'est extrêmement grave. C'est criminel. Ils ne s'en rendent peut-être pas compte, mais ce sont des criminels en puissance. Et ceux qui le font à visage découvert, ils sont pères de famille, je ne sais pas quels exemples ils sont en train de donner à leurs enfants. Il y en a qui sont même des enseignants, je ne sais pas lorsqu'ils sont en face de leurs étudiants ou de leurs élèves, ce qu'ils leur disent en termes d'éducation civique, en termes de normes de société. Mais ce sont des criminels en puissance que nous voyons opérer à visage découvert et la justice est dans l'incapacité de réagir. C'est extrêmement grave. Il faut repenser le Togo, il faut reconstruire le Togo, mais le Togo tel qu'il est conduit aujourd'hui, je vous assure, c'est une gouvernance catastrophique.
Et professeur, c'est vrai que Ambroise s'est prononcé sur le taux de participation tout de suite, mais je voudrais aussi que vous vous prononciez sur ce taux, mais moi je mettrais plutôt le curseur sur ce taux d'abstention, c'est-à-dire pratiquement 46%, et au-delà de cela, il y a plus de 66 000 personnes qui ont déposé alors des bulletins nuls dans l'urne, mais finalement on se demande, ça doit nous interpeller pour ce qui concerne surtout le taux d'abstention et aussi les bulletins nuls.
Mais apparemment, ça n'interpelle que les gens encore conscients que le Togo ne va pas bien et qu'il faut apporter des solutions aux maux que vit notre pays. Vous l'avez dit, même si on prend les chiffres officiels, 46%, c'est déjà beaucoup. Mais une chose est certaine, c'est que les 55%, les 55% annoncés par la CENI sont très loin de la vérité. Pour cette année, le Front Citoyen Togo Debout et d'autres organisations avec lesquelles nous collaborons, nous n'avons pas souhaité être sur le terrain et voir comment est-ce que les élections municipales se déroulaient. Est-ce qu'il y avait de l'affluence, etc. Franchement, nous avons estimé que ça aurait été une perte de temps et une perte d'énergie. Mais une chose est certaine, à l'évidence, les bureaux de vote, les centres de vote étaient désertés par les électeurs, étaient désertés par la population. Alors je ne sais pas par quelle alchimie la CENI, souvent on nous dit que la CENI a les résultats des élections avant même le déroulement du scrutin. Et je pense que c'est peut-être une situation de ce genre que nous sommes encore en train de vivre. Et les chiffres qui nous ont été annoncés, bon, c'est des chiffres officiels bien sûr, mais ça nous paraît très loin de ce que nous avons réellement vu.
Mais si nous prenons le chiffre officiel, le taux d'abstention, tel que je le disais maintenant, 46%, mais comment cela s'explique, professeur?
Alors, Ambroise a donné une explication. Moi, je pense que beaucoup de citoyens... Je précise que pour cette fois-ci, je n'ai pas été voté. Alors qu'habituellement, j'essaie de participer au processus, même si je suis conscient des insuffisances. En me disant que, en dépit de ce que certains pensent, à travers une élection, une opposition suffisamment organisée peut tirer ses marrons du feu. Permettez-moi l'expression. Je veux dire par là que lorsque l'élection fait partie de la stratégie d'une opposition pour accéder au pouvoir ou pour glaner des places, parce que c'est quand même important de participer à la gestion des affaires publiques, parce que le jour où on vous met à la tête d'une nation, si vous n'avez jamais dirigé une mairie, si vous n'avez jamais rien dirigé au niveau
familial
et public, c'est extrêmement difficile. C'est comme si on vous parachute et que vous tombez dans quelque chose que vous n'avez jamais appréhendé. Et c'est extrêmement grave. Ça s'est vu dans des pays Par exemple, en Irak, lorsqu'ils ont fait partir toute l'administration de Saddam Hussein, on a vu les conséquences. Ceux qui sont arrivés, qui n'y connaissaient absolument rien, qui étaient tous des opposants, et ça a conduit le pays à la catastrophe. Donc, il est important, je crois, en tant que parti politique surtout qui se respecte, de se battre, même si les conditions sont difficiles, pour glaner des places de députés, glaner des places de mairie. Cela fait partie d'une vie, de la vie d'un parti politique. Et personnellement, en tout cas, j'ai toujours été pour accompagner, soutenir les processus électoraux. Mais avec, bien sûr, l'espoir que les partis qui s'engagent, s'engagent avec un peu de stratégie, avec suffisamment d'organisation. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que sur le terrain, les partis qui sont alliés essaient de mettre en place une synergie en termes de force, une synergie en termes de compétences dans les bureaux de vote. On essaie de faire en sorte que l'électorat comprenne et accompagne en sortant en masse, parce que nous savons tous que la majorité du peuple togolais veut le changement. S'il y a une élection et que les Togolais sortent en masse, ce sera vraiment un tsunami en faveur des partis politiques d'opposition. Mais une fois qu'on a réalisé ce tsunami, il faut pouvoir le protéger. Le protéger lors du dépouillement, ne pas rentrer chez soi, et ça éviterait justement le fait où on voit des gens venir allègrement mettre 10 bulletins, 15 bulletins tout seuls dans l'urne et partir tranquillement. Vous imaginez une situation où dans un centre de vote, il y a des milliers de personnes qui attendent. Quelqu'un peut avoir le culot pour venir déposer 20 bulletins tout seul et repartir tranquillement. Mais il y a des gens qui vont le voir, il y a des gens qui vont le dénoncer. Et face à cette population, cette personne responsable de fraude ferait attention. Donc, est-ce que l'opposition peut justement, et même avoir le soutien des partis qui ne participent pas? Les partis qui ne participent pas peuvent comprendre cette stratégie et dire, nous ne participons pas, mais nous appelons l'électorat à aller voter. Et surtout, surtout, à sécuriser le vote. C'est ce que nous n'arrivons pas à faire, et c'est pour ça que cette fois-ci, j'avoue que j'ai été assez découragé, parce que j'étais convaincu que, malheureusement, il n'y avait plus aucune organisation crédible permettant d'espérer quelque chose de ces élections.
D'accord. Et, en bref, c'est vrai, le professeur parle alors de la sécurisation, justement, alors du vote, mais est-ce que, d'une manière ou d'une autre, l'opposition n'a pas joué aussi son rôle sur ce plan?
Oui, on peut le dire. D'abord, je partage entièrement ce que le professeur a dit par rapport à sa position de ne pas personnellement participer au vote, mais tout en incitant peut-être les autres à y aller, mais tout en s'organisant. La sécurisation, c'est un maillon essentiel aussi du processus, et qui doit non seulement revenir comme étant un pouvoir régalien aux autorités, mais aussi aux forces d'opposition qui ont leurs délégués dans les bureaux de vote. Et là, vous avez remarqué que par le passé, c'est les populations, les votants, les électeurs eux-mêmes qui font la sécurité de leur suffrage exprimé autour des centres de vote. Vous avez remarqué, même au niveau au cours des dépouillements, les gens s'entassent pour voir ce qui se passe. Et ça se fait à cri. C'est-à-dire que vous faites l'erreur d'annuler un vote dont la tâche n'est pas aussi visible. On dit non, non, non. Moi, j'ai assisté plusieurs fois, soit au lycée technique, soit au Marie-Mère Rédempteur d'Ajido Gomme ou à la Kato. Et donc, nous, on avait appelé les gens à aller voter, tout simplement parce que faut jamais laisser le boulevard à un voleur. Parce que le boulevard, et je ne suis pas le seul à le dire, Laurent Gbagbo l'a dit, de par l'expérience que cet homme politique de ce niveau a faite, il a dit, faut jamais donner le boulevard à un voleur. À quelqu'un, Jean-Pierre Fiabosé l'a dit, que vous ne donnez jamais le boulevard à quelqu'un au cours d'une élection dans une dictature. Ça veut dire, on serait dans un régime régulier où l'élection suit les règles et les principes démocratiques internationaux, on peut espérer peut-être boycotter les élections, ou on peut espérer quand même aller à ces élections tout en ayant le regard que s'il y a quelque chose qui n'allait pas bien, on pouvait quand même rebondir à travers un recours devant l'instance indiquée. Ici, le recours, vous le faites, on ne vous regarde même pas. Même la note qui a sorti, je crois, c'est la Cour constitutionnelle, en disant que tous les recours doivent être précis. Ils ont donné des mots.
C'est la Cour suprême.
Alors, ils ont donné des mots bizarres. Des mots bizarres, tout comme quoi on vous décourage même à venir porter plainte ou à venir faire un recours. Donc aujourd'hui, il est clair que moi, quand on vient de m'envoyer un message, deux personnes depuis Mango, d'abord un intellectuel et un étudiant que je connais très bien, il me dit que le top oscillé entre 3 et 5% à Mango. Parce qu'eux, ils sont installés là-bas. Parce que.
Mais ils n'ont pas de chiffres quand même aussi.
Non! Aussi concrets. Pourquoi il y a des observateurs? Il y a des observateurs officiels. la CDAO, l'UEMOA, tout ça là. Mais il y a aussi des organisations de la société civile qui envoient. Et s'ils ont décidé de ne pas participer, ceux qui ont été déjà dans le monitoring peuvent se retrouver sur le terrain et faire un monitoring personnel et vous envoyer quand même les résultats. Donc, ça veut dire que ça, c'est pas ça, Mango, ville que je connais très bien. Vous convoquez un individu, un commissaire convoque un individu, c'est tout le village ou toute la ville qui descend là-bas. Ne me dites pas que les taux ont oscillé entre 60 et 70%, encore moins 40%. Et donc, aujourd'hui, on a compris qu'avec ces élections, Fonia Simbé et son gouvernement et tout son clan ne gouvernent plus. Il ne gouverne pas. Il est assis sur le Togo, juste il est assis pour être là et être là ad vita aeternam. Et ça se comprend. Vous ne pouvez pas tout prendre. Non. Dans un pays qui se dit démocratique, dans un pays qui se dit évolutif, comparatif, est-ce que je veux se comparer aux autres pays qui sont à nos encablures, c'est-à-dire le Ghana et le Bénin? Vous ne pouvez pas jouer avec la vie des citoyens et des Togolais. Mais vous gouvernez un peuple. Il faut être à l'écoute du peuple. Vous ne l'êtes pas. Non seulement ça, les gens sont morts, vous n'avez rien dit. Vous allez à Evala, vous êtes assis tranquillement comme si rien n'était dans un pays normal. Non, ça ne peut jamais se faire dans un pays normal. Et donc, on fait une élection et vous prenez 75% du butin. Même si les gens ne sont pas allés voter. Déjà, le simple fait que 40% ne sont pas allés voter. Ça, c'est le titre officiel. Et que les gens ont une trucidence de voter, de faire des votes multiples avec intimidation, ces élections devaient être annulées. Parce que nous parlons de la base. Nous parlons d'une élection à la base. On parle des citoyens à la base. Vous voulez à tout prix prendre tout. Ce qui veut dire que, conséquence, il va arriver, là, les prochains jours, les prochaines semaines, prochains mois, il n'y aura plus d'élection. Il n'y aura plus d'élection parce que eux vont chercher à vouloir organiser. Mais vous ne voulez plus personne devant les bureaux de vote.
Merci, Ambroise. Oui, professeur. C'est vrai que nous savons les conditions dans lesquelles j'allais dire, l'opposition même a participé à ces élections. À un moment donné, il y a une partie de cette opposition qui demandait le report de ce scrutin. Mais finalement, est-ce que cela aussi n'a pas joué par rapport au score que l'opposition a obtenu au cours alors de ces élections?
Sincèrement, je ne suis pas convaincu que cela ait joué. En fait, ce qu'il faut comprendre, et je crois que Ambroise l'a déjà dit, en allant à ces élections, l'opposition était consciente des difficultés énormes en termes d'organisation. Le fait que la CENI est une CENI illégale, on a parlé du fichier. Donc les insuffisances étaient telles que, je crois que c'est d'abord l'ANC qui avait fait une première sortie pour dénoncer ces insuffisances. Et ensuite, secondairement, comme vous l'avez dit, après les événements des 26, 27 et 28, de façon décente, nous avions tous estimé que le Togo ne pouvait pas s'inscrire dans un processus électoral. Après autant de difficultés, de pertes en vie humaine, de douleur, de souffrance dans les cœurs, et qu'il fallait quand même décemment respecter la dignité humaine et puis proposer de mettre bas la terre, de laisser passer quelques semaines, de laisser les rancœurs et les souffrances s'apaiser avant de se lancer dans un processus. Mais bien sûr, le pouvoir togolais, il fonctionne, comme on l'a dit, sans respecter les populations. Vous savez, je pense qu'on va en parler tout à l'heure, nous avions prévu encore aujourd'hui, plutôt encore demain, d'organiser une manifestation pour respecter la dignité humaine en mémoire des personnes qui sont tombées. Je pense que c'est comme ça que l'on fait dans tous les pays lorsqu'il y a des morts tragiques. Une fois encore, nous recevons une note du ministre de l'administration qui s'oppose à une telle activité. Et pour cette fois-ci, nous avons décidé de lui répondre, mais par une lettre ouverte, une lettre où nous dénonçons ce qu'il dit, une lettre où nous dénonçons ses façons d'agir. Et dans cette lettre de protestation, nous revenons justement sur ce fait en disant, mais nous avons l'impression qu'au Togo, l'émotion doit être autorisé. Quand vous avez des gens qui meurent, quand vous avez des familles qui sont dans la douleur, quand vous avez des populations qui veulent communier, se recueillir ensemble, il faut attendre l'autorisation. Mais nous ne sommes pas des sujets. Nous sommes des citoyens, nous avons des droits. Nous ne sommes pas des sujets, nous sommes là à attendre le bon vouloir d'un souverain, le bon vouloir d'une administration. Mais c'est un manque de respect. Je trouve que la lettre du ministre est très culottée. Je le dis clairement, j'utilise rarement ce genre de propos, mais je trouve que son courrier est très culotté. Et dans la lettre de protestation, nous le disons clairement. Il faut arrêter une façon de vouloir administrer le Togo, une façon de vouloir faire croire aux gens que nous sommes des sujets et que nous ne sommes pas des citoyens ayant des droits. Et pendant qu'on nous interdit de réaliser cet acte de dignité humaine, parce qu'il y a des gens qui sont morts, parce qu'il y a des familles qui sont en souffrance. Nous voyons des gens festoyer massivement et publiquement, parce qu'il y a la fête des Evala. Nous n'avons rien contre la fête des Evala, mais quand dans la même période on interdit à des citoyens de se retrouver ensemble parce qu'ils sont dans la douleur, on puisse soutenir avec que l'État puisse soutenir de façon aussi active des activités de masse, des activités de festin en public. Mais c'est inadmissible. C'est manquer du respect à la population togolaise. Je pense que ça a atteint un summum. Est-ce qu'ils s'en rendent compte?
Finalement, professeur, ça veut dire que votre manifestation de demain, c'est-à-dire la marche citoyenne, n'a pas d'autorisation quand même pour être exécutée, c'est ça?
Et la raison principale, c'est monsieur le ministre de l'administration territoriale de la chefferie coutumière qui nous dit que parce que le processus électoral n'est pas fini, il y a eu des résultats provisoires, on est en période de contentieux, il faut attendre la proclamation définitive des résultats par la Cour suprême. Et donc pendant ce temps, les familles qui sont dans la douleur, nous qui sommes dans l'émotion, nous devons taire ces émotions et attendre son autorisation administrative. Mais vous voyez un peu où est-ce qu'on en est aujourd'hui, mais c'est totalement écœurant et c'est totalement indécent. Donc effectivement, hier, c'est cette réponse qu'il a adressée au chef du bureau de Novation Internationale, avec qui nous collaborons bien sûr pour cette manifestation soutenue par la société civile et soutenue par la nation togolaise. Et donc c'est la réponse qu'il a adressée. Hier, nous nous sommes réunis, ça n'a pas été facile du tout. Une grande partie souhaitait qu'on maintienne l'activité sur demain, mais progressivement, et je fais partie encore de ce deuxième groupe, nous avons essayé d'insuffler l'apaisement dans le groupe en disant, nous allons encore une fois reporter la manifestation. Nous sommes tous convaincus que l'argument avancé par le ministre est totalement fallacieux. C'est une décision purement politique, ça n'a rien à voir avec le maintien de l'ordre public, et je pèse mes mots, c'est une décision purement politique. On empêche une population qui est dans la souffrance. J'ouvre une parenthèse. Mais regardez, le 15, lorsque nous sommes allés sur la berge pour déposer des fleurs, toutes les difficultés que nous avons eues. Mais regardez ce qui se passe dans les autres pays. En Russie, Navalny est mort. Navalny, tout le monde sait que c'était l'opposant numéro un de Poutine. Mais est-ce que Poutine a empêché que les gens aillent déposer des fleurs, aillent allumer des bougies? Pourtant, nous connaissons la force de ce monsieur. L'administration russe ne s'est jamais opposée à cela. Mais au Togo, nous avons quelques énergumènes qui se mettent devant.
On va pas parler d'énergumènes, professeur, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. S'il
d'accord.
Plaît.
En fait, je retiens mes mots.
C'est la première fois que je... Oui, ça, je vous comprends. Je vois si bien que... C'est l'émotion.
C'est l'émotion.
Oui.
On n'a jamais vu le professeur comme ça. C'est-à-dire que nous sommes des loups et nous, on vocifère. Mais lui, je ne l'ai jamais vu dans cet état.
Puisque je le connais sur un ton bien
posé, tout ça. Et c'est qu'il dit qu'il a survolté, qu'il le révolte. C'est le simple fait même. Le pire dictateur que l'on puisse reconnaître aujourd'hui, c'est la Corée du Nord, ou peut-être on parlera de Poutine. Mais Poutine est raisonnable, c'est ce qu'il dit. Que les gens sont morts, que leur âme repose en paix. Le minimum dommage qu'on puisse leur faire après leur mort, j'étais fait d'aller déposer un germe de fleurs. Ça aussi, dans ce pays. C'est-à-dire que, quand j'ai vu les images, ça m'a été appelé. J'ai dit, mais tiens, bon, on empêche les gens de venir déposer les germes dans la lagune. Pourquoi? Puisque eux-mêmes, ils sont des ritualistes. Donc, ils pensent, j'aime les gens en même temps, on se connaît, je les connais. Donc, ils peuvent dire que, peut-être, ils sont venus faire des rituels qui peuvent aller contre le fauteuil de Fonia Tibé. C'est-à-dire, toute leur réflexion se tourne autour du fauteuil. Non! Non! On ne peut pas diriger un pays comme ça. Mais Fonia Tibé partira un jour. Soit de mort ou de lui-même, ou par la force des choses.
D'accord, Ambroise, merci.
Mais oui, déposer une gemme de fer.
Oui, merci, Ambroise. Ambroise, merci.
On ne peut pas l'empêcher.
Oui, c'est vrai, vous avez aujourd'hui le refus, même d'ailleurs, par rapport à ce qui concerne l'autorisation lors de cette manifestation. Une marche citoyenne, c'est bien c'est la dénomination. Mais est-ce que c'est surprenant? Parce que déjà, de part ce que vous avez déjà subi le 15, et par rapport même d'ailleurs à des refus antérieurs par rapport à des manifestations. Est-ce que ça a été surprenant?
Une chose est certaine, c'est que la restriction de l'espace civique, c'est quelque chose que nous connaissons et que nous vivons déjà au Togo. Nous en parlons au Togo et vous avez beaucoup d'institutions des droits humains, à l'international qui en parle. Quand vous prenez Civicus qui parle du Togo, le Togo est toujours inscrit dans le rouge, c'est-à-dire en termes de respect de l'espace civique, en termes de respect des libertés fondamentales. Donc c'est quelque chose que nous connaissons. Mais lorsque on dit qu'on veut organiser une marche silencieuse, citoyenne, pacifique, je ne sais plus quel qualificatif utiliser, pour simplement célébrer la mémoire de disparus, mais même les pays les plus atroces ne s'opposent jamais. Donc personnellement, j'avoue que pour cette fois-ci en tout cas, je ne m'attendais pas à cette réponse du ministre. Je m'étais dit, ils ont voulu à travers, pendant la campagne, faire en sorte qu'on ne puisse pas le faire. La campagne est passée. Lui-même, il a dit, une campagne, c'est des caravanes, c'est des meetings, c'est des sensibilisations porte-à-porte. Ce sont les éléments qu'il a inscrits dans le courrier. Il n'y a plus de caravane, il n'y a plus de meeting, il n'y a plus de sensibilisation porte-à-porte. Donc, on peut permettre, on peut comprendre que des citoyens qui sont dans la douleur puissent ensemble marcher, prier pour soutenir des familles en douleur. Pendant qu'eux, ils sont en train de festoyer, c'est leur droit le plus absolu. Mais qu'ils nous permettent, nous aussi, d'être dans la douleur. Mais ensemble, je n'aurais jamais imaginé que, une fois encore, cette administration allait s'y opposer. Ça, je l'avoue, pour moi, c'était une surprise.
D'accord. Professeur, nous allons aborder un autre sujet, c'est par rapport aux 35 ans d'existence de la LTDH, la Ligue Togolaise des Droits de l'Homme. Et il y a le journal Actu Express qui est revenu sur le sujet, le journal qui écrit les 35 ans de la LTDH célébrés dans la sobriété. Et le journal écrit par la suite, message du président de la Ligue Togolaise des Droits de l'Homme à l'occasion des 35 ans de l'association. Et c'est vrai, nous avons pris le temps de parcourir ce message alors du président Maître Célestin Kokouvi Agbogan, et quand vous suivez ce message, vous comprenez tout simplement que il y a des conditions dans lesquelles ces défenseurs des droits humains travaillent aujourd'hui qui ne sont pas appropriées. Et quand on suit ces conditions, on comprend tout simplement que les droits de l'homme ou la défense des droits de l'homme dans notre pays a de problèmes, n'est-ce pas, professeur?
C'est une certitude, et justement ça rejoint ce que je disais tantôt concernant la restriction de l'espace civique, les violations des libertés fondamentales. Je n'ai malheureusement pas lu le message, mais comme vous en parlez, je pense qu'à la fin de l'émission, je pourrais avoir accès au texte et je pourrais m'imprégner du message de monsieur, de maître Célestin Agbogan. Je voudrais quand même remercier la Ligue pour le travail. Vous avez dit 35 ans, c'est ça?
Tout à fait.
35 ans, c'est plus qu'une génération. Donc, c'est un énorme travail abattu par la Ligue depuis des décennies pour soutenir la défense des droits humains, le respect des droits humains, des libertés fondamentales. Et encore récemment, après les événements que nous avons vécus au Togo les 26, 27 et 28 juin, je sais que la Ligue a abattu un énorme travail auprès des personnes arrêtées, auprès, justement, on a vu avec Amron le rôle joué par monsieur maître Célestin Agbogan. Et même pour soigner les victimes, il y a eu beaucoup de blessés. Et je sais que des blessés ont été soutenus, accompagnés par la Ligue, de même que d'autres organisations comme Amnesty Togo, comme le CACIT, etc., etc. Mais je crois que pour ce qui est du travail effectué dans des conditions aussi difficiles, on ne peut que tirer son chapeau à cette organisation et lui souhaiter bon vent. Effectivement, il est extrêmement difficile aujourd'hui au Togo de conduire un travail pour la défense des libertés fondamentales et des droits humains, de pouvoir le faire de façon apaisée, de façon décente, parce que les entraves sont nombreuses. Très nombreuses.
C'est vrai que vous avez dit que vous n'avez pas lu le message, mais je vous livre juste cet extrait du message du président de la Ligue Togolaise des Droits de l'Homme. Je lis, je cite, « Aujourd'hui, nous faisons face à des défis sans précédent. Le climat actuel, marqué par une restriction croissante des libertés fondamentales et une persécution accrue des défenseurs des droits humains, met à l'épreuve notre engagement. Les violences, les arrestations arbitraires. Les intimidations sont des réalités auxquelles nous devons faire face quotidiennement. Cependant, ces adversités ne doivent pas nous décourager, mais plutôt galvaniser notre détermination à continuer notre lutte pour la justice et l'égalité. » Vous suivez cet extrait alors de la chose. Est-ce que finalement ça décrit un tout petit peu les conditions de travail alors des défenseurs des droits humains?
C'est une description qui rejoint parfaitement la réalité sur le terrain. Il y a beaucoup de contraintes. Lorsque vous êtes défenseur des droits humains au Togo, vous avez le sentiment à chaque fois qu'il y a, que vous avez une cible dessinée dans le dos. Vous êtes suivi, vous êtes contrôlé. Nous avons tous entendu Pegasus et son utilisation au Togo. Et donc voilà l'environnement délétère, difficile, oppressif dans lequel vous devez évoluer lorsque vous êtes défenseur des droits humains. Mais surtout, cela ne doit pas décourager. Justement, quand vous menez la lutte, c'est pour que cet environnement puisse s'éclaircir, c'est pour que l'espace civique puisse s'ouvrir et se libérer. Et c'est pour ça que nous sommes aujourd'hui sur Canal FM, et c'est pour cela également qu'il faut remercier les journalistes, parce que je sais que vous aussi, vous jouez un rôle énorme, justement, dans la défense des libertés fondamentales, dont la liberté d'expression et d'information.
Mmh. Ambrose, oui, quand on suit Maître Célestin Bougain dans ses... Dans la manière dont il relate la situation pour ce qui concerne les droits de l'homme au Togo, est-ce que finalement il est difficile aux défenseurs des droits humains de faire le travail au Togo?
C'est plus qu'une évidence, parce que moi je l'ai déjà dit depuis le premier mandat de Donald Trump. Je l'ai dit, ça fait pratiquement 8 ans ou 9 ans ici. J'ai dit, d'abord, ce monsieur n'est jamais venu en Afrique. Il parle de pays de merde. Et il s'en fout de nous. Il y a deux risques. Soit il décide de taper du poing sur la planche, comme le font les démocrates souvent, qui arrivent au pouvoir. Ils font ce qu'ils peuvent, même si le cas du Togo est un cas atypique et spécial. Ou soit il décide de nous ignorer et renforcer et permet insidieusement, c'est pas lui, aux dictateurs africains de se renforcer. Et c'est ce qui est arrivé. Je l'ai dit. Vous allez voir. C'est quand ces présidents africains savent que Trump ne nous regarde pas. Tout le monde a verrouillé le système, que ce soit au Cameroun, que ce soit en Ouganda, que ce soit même ceux-là qui étaient des régimes démocratiques. Macky Sall a voulu le faire. Et il y a d'autres, Guinée-Bissau, et le Togo, lui, baigne entre quatre avions. Il y a la Turquie, il y a même plus, hein, il y a d'abord l'Israël, il y a la France, il y a la Russie aussi, d'une moindre mesure. Oui. Il y a la Turquie, il y a l'Iran. Ils sont même allés jusqu'en Azerbaïdjan. Le problème, c'est de renforcer l'arsenal militaire pour sécuriser le fauteuil de Faure Gnassingbé. Et donc, la Ligue togolaise des droits de l'homme, que je félicite au passage, qui créait depuis 90, comme ils l'ont dit, mais qui n'a eu le récépissé que qu'en 2000. Je me rappelle très bien cette histoire-là. Ils n'ont jamais eu de récépissé. C'est plusieurs années après qu'ils ont eu le récépissé. Ils ont maintenu le cap. Depuis le maître Kofigo jusqu'à les autres, Pandé, Adjaré, il y a l'autre là dont le nom m'échappe toujours. Ils ont maintenu le cap jusqu'à aujourd'hui. Et ils fouillent jusqu'à savoir où se trouve une victime des exactions de la barbarie de ce régime. La dernière fois, le monsieur était venu, si tu étais là, le monsieur nous a montré son dos avec des zébrures rouges. Et quand Maître Pandé Adjaré, on l'a dit, Maître Agbogan dit, on l'a dit, donnez-lui notre numéro de nous appeler. Déjà, il recense tout. Là, ce n'est plus l'IA, hein. C'est moi-même qui ai vu, hein, ici, devant Canal FM. Hein. Et donc, pour dire qu'en réalité, nous sommes dans un système où, nous, les journalistes, même, on a des problèmes. Ne parlez pas des défenseurs des droits de l'homme. Et je l'ai précisé, que les droits de l'homme n'ont pas de camp. Les droits de l'homme ont un seul camp. On a violenté, on a tué, on a réprimandé. C'est condamnable. Ça, c'est les droits de l'homme. Que personne ne vienne nous dire que ils ont tué, mais c'est une raison qui a motivé qu'on a tué. Ceux qui font ça, ils font l'apologie du crime. Et ces gens-là, c'est eux qui doivent être condamnés en premier. Comme Chaka Zulu le faisait en son temps. Pour dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans un système où d'abord, tout l'argent que vous déposez quelque part, on vous dit, vous n'avez pas le droit d'avoir cet argent. Tout ce qu'on vous envoie en tant qu'ONG pour pouvoir fonctionner, le régime doit avoir ça. Mais nous sommes pratiquement en Corée du Nord. Et donc, le Togo vit dans un habillage démocratique. Un habillage qui est plus renforcé que la Corée du Nord. C'est-à-dire, on vous surveille même tout ce que vous écrivez. La dernière fois, j'ai appelé quelqu'un. Et c'est un autre qui a pris le numéro. Qui a pris, il parle. Après, on a coupé. J'ai dit, mais oh, Kofi, c'est pas toi que j'appelle. Il dit, non. J'ai dit, mais tiens, c'est un confrère que j'appelle. Il est même, lui aussi, il était étonné. Des fois, tu appelles, quand ça rencontre des clôtures, tu sais, non, ça continue pas sonner, mais la personne parle. Ça, c'est aussi mon numéro, ça. Donc, pour vous dire qu'il y a des choses qu'on n'aime pas trop dire pour attirer d'autres criminels. Nous, on préfère, des fois, nous taire, parce qu'il y a des gens dans ce pays, méchants, quand tu leur dis ça, même dans notre corporation, ils te disent que où se trouve la preuve. Un journaliste m'a demandé une fois, un confrère qui a été devant une organisation de preuve m'a demandé une fois, pour dire que ce que souffrent les maîtres à Bougan, ce que souffre la TDPDH, ce que souffre Acholi, c'est ça non oui, Acholi de Kao Acholi, ce que souffrent nos amis qui sont de la 4, non quelque chose comme la torture, ce qu'ils souffrent. D'abord pour pouvoir continuer par fonctionner et pour pouvoir aller sur le terrain. Non, félicitations à ces gens-là, surtout à Maître Abogan. Et il le fait de façon objective et sereine. Un défenseur n'a jamais peur, quoi qu'il arrive. Quand tu es défenseur, un combattant, tu as peur de qui? Celui qui fait ça, il mourra. Toi, si tu mourras un jour. Donc, tu as peur de quoi?
D'accord, merci, Abraz. Oui, professeur, c'est vrai que pour ce qui concerne la situation du pays, la situation sociopolitique alors du pays, il y a des gens quand même qui se prononcent sur cette situation. Vous aimez bien le faire aussi. Vous vous prononcez de temps en temps. C'est pour cela même que vous êtes aussi dans ce studio avec nous. Il y a un prêtre également qui s'est prononcé sur le sujet et sur la situation sociopolitique, bien sûr, du pays. Et c'est Actu Express qui revient sur le sujet. Actu Express qui écrit les vérité poignante d'un prêtre catholique sur la crise sociopolitique au Togo. Et là, Actu Express parle plutôt du père Sévérin Gapé. Et Actu Express cite l'une des, enfin, un extrait de la déclaration du prêtre. Le prêtre dit, je cite, « Je vous annonce que le peuple a faim pendant que vous vous occupez de vos ventres et de vos bas-ventres. » Comment pouvez-vous vous satisfaire de gouverner un peuple d'affamé et de tout faire pour le maintenir dans cet état? Et c'est, fin de citation bien sûr, c'est des propos alors du père Sévérin Gapé. Alors, comment vous analysez...
C'est le prince de Machiavel.
Comment vous analysez alors ces propos, professeur?
Je crois que lorsque vous avez des voix modérées, et généralement les prêtres, les hommes de Dieu, les religieux sont connus pour être des voix modérées. Mais lorsque vous avez des voix modérées qui commencent à s'exprimer ainsi, c'est une façon de tirer sur la sonnette d'alarme et de dire attention. Nous sommes peut-être en train d'être dans un tournant décisif. Il faut que quelque chose soit fait. En tant qu'acteur de la société civile, vous l'avez aussi peut-être remarqué, nous avons souvent tendance à appeler à des actions concrètes pour faire baisser la tension sociopolitique, des actions concrètes pour apaiser le climat. Parce que le climat sociopolitique, il n'est pas bon. Il n'est pas bon, d'autant que le peuple a faim et le prêtre a raison de le dire. Vous savez, c'est quelque chose que je fais régulièrement. Je discute avec les opérateurs économiques, je discute avec les responsables d'institutions financières et ça permet d'avoir une vraie idée de la situation économique du pays. Les opérateurs économiques, pardon, ceux qui sont au marché vous diront par exemple que, comparativement aux années précédentes, aujourd'hui, leur chiffre d'affaires est divisé par 10. Je dis bien par 10. C'est-à-dire qu'en moyenne, vous avez des gens qui faisaient comme chiffre d'affaires 500 000 francs quotidiennement, qui aujourd'hui sont heureux lorsqu'ils arrivent à faire 50 000 ou 100 000 francs. Vous avez les responsables d'institutions financières qui vous font le point de l'année 2024, que ce soit FUSEC, je les cite comme ça, bon, je cite la FUSEC, je ne cite pas les autres, mais qui vous disent, mais pour cette année 2024, autant les années précédentes, nous avions des gens qui venaient prendre des crédits, des gens qu'on connaissait, qui payaient rubis sur ongle dès que... la fin du mois était arrivée, mais cette fois-ci, nous avons été surpris que ces mêmes personnes aient accusé des mois et des mois de retard. Donc, le portefeuille du crédit, tel qu'il a été en 2024, témoigne tout simplement, en tout cas, que l'argent ne circule pas. Beaucoup de gens ont pris de l'argent auprès des institutions financières, Mais les affaires n'ayant pas pu marcher peut-être comme ils le souhaitaient, ils n'ont pas été en mesure de payer. Et quand l'argent ne circule pas, c'est normal qu'on puisse dire que les gens ont faim. C'est normal qu'on puisse dire que le peuple a faim. C'est normal qu'on puisse retrouver des gens en train de se battre sur les dépotoirs pour amasser du riz avarié. Et pendant ce temps, vous voyez des gens en train de festoyer, tranquillement. Parce qu'ils sont à une fête traditionnelle.
Mais c'est, vous insistez beaucoup là-dessus.
Mais je trouve que c'est inadmissible. Je trouve que c'est inadmissible. Surtout que, mais c'est de l'indécence. L'administration togolaise se déporte pendant des jours et des jours pour festoyer, pendant que des gens sont dans la douleur, et en plus on leur dit, vous n'avez pas le droit de communier par rapport à cette douleur. Et ça, sincèrement, ça me révolte. Je suis totalement indigné, et je pense que le peuple togolais doit se sentir indigné. Ah, il faut dire, mais nous sommes des citoyens, malgré tout. Nous sommes des acteurs du développement de ce pays. Quand ça ne va pas, on doit pouvoir le dire. Mais on ne doit pas nous dire, taisez-vous, attendez que ce soit l'administration qui vous autorise à être dans l'émotion. Attendez que ce soit l'administration ou avec le ministre de l'administration qui vous écrit pour vous dire, bon, maintenant, on vous autorise à marcher parce que vous avez mal quelque part, parce qu'on a tué des enfants.
Oui, mais est-ce que c'est vrai, c'est ce slogan qui est écouté plus alors ces derniers temps, c'est-à-dire le peuple a faim, et on se souvient même d'ailleurs de cette image qui circule alors sur les réseaux sociaux quand un homme que nous avons vu lors des évalas qui demandait de l'aumône au président du conseil, et quand on voit cela aujourd'hui, est-ce que vous arrivez à comprendre?
Oui, d'abord c'est un message, c'est une image surprenante qui s'exprime à travers un message. C'est-à-dire qu'on a compris que ce que les gens, nous disons tout haut ici, et que les MCC, le M106, les blogueurs ont fait manifester les gens dans ce pays parce que les gens disent qu'ils ont faim. Et Dieu, il est grand. Il faut toujours avoir de voir Dieu dans sa grandeur, dans sa magnificence, dans sa puissance. Dieu a voulu démontrer à Fong Nsingbé que le message que les gens t'ont envoyé et que tes soldats les ont tués, c'est le message en résumé que le maigrichon est venu te présenter à combien? À 10 mètres de toi. Parce que moi, je respecte beaucoup Evala. Parce que je me dis que c'est une fête culturelle. Quand vous allez chez les Zoulous, c'est pratiquement la même chose. On présente le jeune qui sort de l'adolescence pour rentrer dans l'adulte. Et il est prêt à se marier, il est prêt à créer sa propre route. Donc, c'est une route que moi, je respecte beaucoup. C'est pourquoi je fais tout pour défendre tous ceux qui défendent leur rite, leur culture. Maintenant, c'est l'occasion aussi où les gens envoient des messages. Vous allez voir, le maigrichon, après son acte, a suscité une chanson de la part de nos frères Kabier, qui dansaient. Tu as suivi la chanson? Et ils disent carrément que la politique a gâché notre fête culturelle. Moi, je comprends Kotokoli, très bien. Je comprends Kabier, je parle un peu. Et donc, quand tu écoutes, s'il savait, je dis Dieu, il est grand, s'il savait que ce monsieur qui s'est assimilé aux autres qui étaient pratiquement nous aussi, il y en a d'autres qui ont fait de la poudre blanche là, du poda, et qui dansaient là, le monsieur aussi s'est déguisé parmi eux, et qui s'est retrouvé à un endroit où il ne devait pas se retrouver. Parce que les gardes de force pouvaient rapidement, s'ils savaient que le geste là, ils devaient le faire, oh mon frère, ils vont rapidement le dégager.
Vous n'avez pas arrivé.
Et je n'ai pas vu le visage de Fong Nsingbé par rapport au monsieur. Fong Nsingbé, si jamais le connaissant pouvait faire quelque chose comme ça, pouvait lui envoyer une salutation comme ça. Mais je crois qu'il n'a pas aimé. Il n'a pas du tout aimé. Comme un film que je vois souvent sur Novella, Antonia Guerra et la patronne. Quand la dame, elle est mécontente, elle exprime calmement, mais elle ne fait pas de gestes. Donc Fong Nsingbé n'a pas voulu faire de gestes parce que, et on ne peut même pas renvoyer le monsieur comme ça. Et vous allez voir le monsieur faire le tiers ou le quart de mon corps. Et il a fait significativement, hein. Il a tapoté le ventre et il a posé sa main dans l'autre main, disant qu'il a fait. Il a envoyé même la main à la bouche. Mon frère, c'est un message de tout le Togo que le monsieur a envoyé. Ce n'est pas un message anodin. C'est pas un attaque. Et quelqu'un a posé la question, ce monsieur, est-ce qu'il est kabylé du Togo ou bien c'est un ange qui l'a envoyé?
Mais Fonya Sibé ne va jamais écouter son message.
Merci Ambroise. Il a dit, nous allons maintenant donner la parole à nos auditeurs. Professeur, le principe de l'émission, c'est bien sûr, nous donnons la parole aussi aux autres hein, pour s'exprimer sur des sujets débattus ici au Club de la Presse. Donc, c'est le moment. Nous allons leur donner la parole sur nos deux numéros 90 86 35 35 91 36 63 75 et aussi sur notre numéro WhatsApp. Ils peuvent nous écrire sur le 90 45 78 57. Mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs.
Le plaisir pour l'atterrir, écoutez Canal FM 93.5.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse. Professeur, je vais vous prier de porter votre casque devant vous pour écouter vos compatriotes. Ils sont à l'écoute et je sais qu'ils auront des questions à vous poser hein, par rapport au développement de l'actualité fait ici au Club de la Presse. Et 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75. Allô?
Allô?
Bonjour.
Oui, bonjour, chef.
C'est Sylvain.
Oui, c'est Sylvain.
Allez-y.
Je salue l'invité, M. Ambroise. Je souhaite que l'invité sera encore là aujourd'hui seul. Bon, on rend grâce pour tout. Et franchement, c'est donc le pouvoir de ne pas être dans cette logique d'un coup viré la bas à mon village. C'est que on veut mourir au pouvoir. Il faut bien faire les choses. Vous ne voulez pas bien faire les choses, vous voulez mourir au pouvoir. C'est ça qui est scandaleux. Les gens se plaignent dans le mal. Regardez ce monsieur, un enseignant qui vaut les unes. Et ici, il est content quand le service, il est content. C'est-à-dire que nous sommes dans une république qui est entassée. Quand vous voyez des choses comme ça, il faut savoir que nous sommes entassés. Il faut bien faire les choses. Ce monsieur, déjà, on devait l'interpeller. Franchement, on ne comprend plus rien.
Merci.
On ne comprend plus rien.
Merci beaucoup, Sylvain. On va donner la place à d'autres personnes. Allô?
Ah, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Oui, ça va. Joshua.
Joshua.
Et depuis Zanguera.
Depuis Zanguera, allez-y.
Oui, j'aimerais demander au professeur, quand les compatriotes de M66 avaient lancé leur marche, les gens aux permissions sur la radio qui n'avaient pas demandé de permission, qui n'étaient pas autorisés. Voilà qu'eux, ils ont demandé la permission et le pouvoir trouve encore des arguments pour les empêcher de d'aller se recueillir là. Est-ce que ce pouvoir ne donne pas raison aux anarchistes dans ce pays? Merci beaucoup.
Merci, Joshua, pour votre intervention 90-86-35-35. Allô?
Oui.
Bonjour, Pélé.
Bonjour.
J'espère que vous allez bien.
Oui, je salue le plateau.
Le plateau aussi vous salue.
Et je salue le professeur.
Monsieur Pellet, bonjour.
Ok. La marche lancée pierre demain.
Mais Pellet, vous nous avez suivi?
Non, je ne suis pas en Michelin.
Ok. On répondra tout à l'heure.
D'accord, on répondra. Ce qui est sûr, ça ne tient plus.
Hein?
On répondra à la question. Je donnerai la parole
À
la professeure.
En fait, il faut tout savoir parce que si ça ne tient pas, il faut qu'on fait appel à l'Union. À ce qui concerne je pense qu'on a vu le de ce chef qui a donné un rapport. On doit comprendre que ce que vous avez dit, c'est que nous avons fait. Nous avons fait. Et quand on dit que nous avons fait, on nous tabasse. Quand on dit que nous avons fait, on nous tabasse. Est-ce qu'on a tabassé ce monsieur? Est-ce qu'il y a un poids que ça? Est-ce qu'on a tabassé? C'est ce que nous disons. Personne n'est contre. Mais voilà, la tradition qui est normale. Mais il ne faut pas qu'on nous impose. Moi, je pense que depuis des années, à plus de 40 ans, quand il pleut de Dieu, non, mais on ne va pas aller sur ce chemin, mais pourquoi le pouvoir que vous voulez essaie de faire le sanctuaire pour les Togolais? Nous, on ne peut pas faire le sanctuaire pour les Togolais. Maintenant, à ce qui concerne les élections communales qui se sont passées, je pense que si les ressources de mémoire se posent des questions, est-ce que les Togolais réellement ils ont voté à ce régime, est-ce qu'ils sont des moutons? Lorsque, quand on voit Sadi Talon, qui fait 10 ans, qui est en train de faire 10 ans,
D'accord, merci beaucoup, Mbélé, puisque il y a beaucoup de gens qui sont en ligne, 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonsoir.
Bonjour, monsieur Gado.
Monsieur Gado.
Oui, monsieur Gado, allez-y.
Professeur, bonsoir.
Monsieur Gado, bonjour.
Comment vous allez? Professeur, j'avais demandé une semi technique dans ce pays. Les partis politiques m'ont cité que les gens sont corrompus. Et c'est corrompu, bon, laissez-les. Laissez-les, et voilà, ils n'ont même pas pesé pour changer cette semi-là. Ils sont passés avec cette semi. Et ils n'ont pas de droit pour peser, pour choisir le peuple juste, que donc, voilà ce que nous voulons là-bas. Voilà, vous voyez, non, mais ils sont divisés, même le cas de cette semi, je ne sais même pas là. Ça vaut quoi, quoi. Mais voilà moi, ce que moi je demande au gouvernement. C'est un vaccin. DTE, je vais sortir encore tout chaud. DTE, vous savez ce que cela veut dire? Dialogue, transition, élection. DTE. Si vous ne faites pas ça, restez là-bas. Merci.
Merci, monsieur Gado, pour votre intervention. 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 115. Allô?
Allô?
Bonjour.
Bonjour.
C'est Papa Sourdinet.
Oui.
D'accord, allez-y.
Tout d'abord, moi, je remercie ce monsieur qui s'était présenté devant le président du conseil. Le disant que nous avons vraiment faim. Et réellement, on a fait au Togo. On n'a pas la chance d'aller se présenter devant lui. Mais quand lui l'a fait, moi, je dis bravo. Bonne journée.
Bonne journée à vous aussi, monsieur Sordinet, 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75. Allô?
Allô?
Bonjour.
Bonjour.
Votre nom, s'il vous plaît?
Allô?
Oui, votre nom?
Kodjovi Kodjo.
Kodjovi Kodjo. Oui. Vous nous appelez de quel quartier?
J'appelle de Vaughan.
Vaughan, allez-y.
Bonjour, Ambroise.
Bonjour, cher ami.
Merci beaucoup. En fait, j'ai l'impression que ceux qui nous dirigent pensent qu'ils sont immortels. Et la manière dont Fania Singh dirige ce pays, j'ai l'impression que il est en train de suivre le conseil de son papa, puisque lui-même il avait dit, mon papa m'a dit de ne jamais laisser le pouvoir. Mais il oublie que le pouvoir n'est pas une propriété privée. Le fauteuil présidentiel n'est pas une propriété privée. Donc je crois fondamentalement qu'il va changer la manière de gouverner ce pays, puisque tout le monde le sait, nous allons tous quitter cette terre, nous allons mourir un jour. Voilà, si le maintien, le peuple togolais dans cette souffrance, en tout cas, il a aussi dit que la minorité s'accapare des ressources du pays, et il fait partie de cette minorité. Il est même le chef d'orchestre de cette minorité. Donc, qu'il change de comportement, de manière de diriger ce pays, et je crois que ça va nous avantager tous.
Merci, Kodjovi. Oui, merci, Kodjovi. On va donner la parole à d'autres personnes aussi, puisque beaucoup de personnes sont en ligne. Allô?
Allô, Pascal.
Oui, bonjour.
Bonjour.
C'est monsieur?
Monsieur Balou.
Ah, monsieur Balou.
Oui.
Allez-y.
Je vous appelle Bagoué.
Allez-y.
Bon, moi, cette histoire de ce monsieur qu'on a vu à Igala, et il a présenté la somme qu'il a, que le monsieur a fait là. Vous savez, vous qui êtes sur le plateau là-bas, là, vous ne pouvez pas nous démentir ça. Ce genre d'individus, il y en a dans beaucoup de nos villages. Parfois, c'est des malades mentaux, c'est des alliés, c'est des soulards qui viennent. Bon, parfois, on voit des fous même venir dans vous, en train de manger, nous demander qu'ils ont fait, non. Sinon, moi, je suis cadet. Chez nous, il y a de ce genre de messieurs qui sont dans nos villages. Ils viennent devant toi de lui donner un mandat. Je ne dis pas que ce monsieur-là est un fou. Mais parfois, ce n'est pas souvent des gens normaux qui présentent de l'acte. Donc, mais c'est à prendre avec des préceptes. On ne peut pas tous dire que ce monsieur, c'est la fin qu'il lui a fait. Il est venu devant le chef d'État pour faire pour poser cet acte. Moi, je me porte en fou à ça. Ça, je prends ça avec des préceptes. On ne peut pas dire à 100% que c'est ça.
D'accord, c'est votre avis, monsieur Abalo. Merci. Et bonne journée à vous aussi. 90 86 35 35 91 36 63 75. Les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir. Allô?
Oui, allô?
Bonjour.
Bonjour.
Votre nom c'est?
C'est Kodjovi Kodjo qui revient.
Oh, Kodjovi Kodjo.
Oui, au fait, même si le monsieur qui.
Allez-y. Allô? Ah, il est sorti de la ligne. Il est toujours en ligne. Allô? Allô? Allô, bonjour. 90 86 35 35 91 36 63 75. Les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, Mauto.
Oui, monsieur Mauto.
Bonjour.
Oui, bonjour.
Oui, je ne sais pas si vous avez suivi Canal FM hier. Il y a un compagnon qui faisait une proposition. Est-ce que vous ne pouvez pas demander à l'ONU de venir faire d'organiser l'élection au Togo? Ce n'est pas faisable. Parce que ce que nous fait au Togo, ce n'est pas l'élection. Il faut oser voir. Même pour sécuriser les jurys, moi, j'en fais partie des jeunes qui ont organisé une veille dans un quartier en 2010. On a arrêté les jeunes, même les policiers les ont embarqués. Le soir, les jeunes sont revenus dans le quartier. Je leur ai demandé, on le mis au poids, le coup, on lui a en aliment. Donc, ça, c'est plus la peine, quoi. Mais c'est bonne émission.
Merci, monsieur Moto, pour votre intervention. 90 86 35 35 91 36 315. Allô?
Allô?
Bonjour.
Bonjour.
C'est monsieur?
C'est Kodjovi Kodjo toujours.
Ah, mais Kodjovi Kodjo, allez-y.
Oui, au fait, même si on suppose que celui qui fait ce geste devant le chef de l'État serait un fou, si un fou fait un geste qu'il a fait, c'est que ça dit beaucoup de choses, ça doit nous interpeller. Merci beaucoup et bonne émission.
Merci beaucoup, Kodjovi Kodjo, 90 86 35 35 91 36 63 75. Allô?
Oui, allô, bonjour, Canal F.
Bonjour, comment vous allez?
Je vais bien.
Votre nom c'est?
Monsieur Philippe.
Monsieur?
Monsieur Philippe.
Philippe.
Oui.
Vous nous appelez de quel quartier?
J'appelle de la Caisse.
D'accord, allez-y.
Et d'abord, je remercie Ambroise vraiment souvent. Ses analyses me plaisent beaucoup. Et tout à l'heure, même, il vient de faire une intervention qui m'a plu. Ne pas attaquer à vos traditions. Quelles que soient les images qui présentent dans nos traditions, n'attaquez pas. Moi-même, j'étais à Dalato l'autre fois. J'étais en train de manger, il y a quelqu'un qui est venu me demander de l'aider à manger. C'est parce que je ne suis pas une autorité que, bon, il n'y a pas l'image, ou bien, bon, la faim, elle est réelle. De Lomé jusqu'à Saint-Cassé, mais il faut recadrer la situation qui est générale, pas attribuer ça à une ethnie, ou bien, non. Donc, bref, je remercie Ambroise pour ses interventions et je l'aime beaucoup. Et je n'ai jamais appris qu'il ait été interpellé à la HAC. Je ne sais pas si c'est arrivé une fois.
Mais merci Philippe. Allez, merci pour votre intervention. 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75. Oui, nous allons recevoir notre dernier auditeur en ligne. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Oui, bonjour.
C'est ça, monsieur?
Ouroux de Adidogome.
Ah, monsieur Ouroux de Adidogome, allez-y.
Oui, je vais poser une question à l'invité.
Oui, allez-y.
S'il vous plaît, monsieur le professeur.
Oui, je vous écoute.
Depuis 90, que l'opposition, ils sont nombreux. Et ils viennent des villages tels que Joseph Bogué et de Dapon. Mettre à Pébo et de Bogan. Ils ont des préfectures. Si par exemple ils sont mobilisés, je ne sais pas si cette technique-là, ils n'ont pas ou bien ils ne veulent pas, ils encouragent le parti au pouvoir et dire maintenant que c'est l'opposition. Pour moi, c'est l'opposition qui peut souffrir la population. Il va voguer. Quand il rentre à Lomé, à Bogan, à Kévier, partout, voguer a des choses. Il est candidat là-bas.
Alors, monsieur Nourou.
Oui, après, d'accord.
Oui, finalement, la question, c'est quoi, concrètement?
Une minute. Ce que je veux dire,
oui.
Chaque opposant chaque leader va dans sa fief rassembler des jeunes qui restent dans les bureaux de vote. Certaines fois, quand tu vas voir mes gars les élections là, quand tu arrives, tu vas voir mes gars finir les représentants de l'Union seulement qui sont dans les bureaux de vote. Tu ne vas pas voir l'opposition là-bas. Et à la fin, on dit maintenant qu'on les a volés, on les a fait soumis. C'est ça que je dis. Ils n'ont qu'à faire. Et mobilise les jeunes pour lui. Et ils vont être aussi dans les bureaux de vote. Quand les gens veulent bourrer, ils sont là. Ils disent non, on ne bourre pas. On ne va pas faire ceci.
D'accord. Merci beaucoup, M. Nourou. Oui, merci beaucoup, M. Nourou. Je pense qu'il a commencé par une question, mais finalement, ça a été une doléance ou une proposition plutôt. Hein. Voilà, ou une contribution, bien sûr. Alors, on revient au plateau. Professeur, vous avez écouté les uns et les autres se prononcer sur l'actualité. C'est vrai, ils se sont plus prononcés sur la question des municipales. On dirait quoi de plus normal?
Tout à fait. Et je rebondis sur ce que le dernier auditeur a dit pour rappeler que effectivement nous avons tous dénoncé les processus électoraux tels qu'ils sont conduits dans notre pays. Et je reviens au rapport que nous avions sorti en 2020, le Front Citoyen Togo Debout, où au-delà des votes par procuration que nous avions estimé à près de 40% dans certains bureaux, dans certains centres de vote, nous avons également mis le doigt sur ce qu'il dit. Ces soi-disant représentants des partis politiques d'opposition qui finissent par se comporter de façon totalement indécente, parce que nous avions pu mettre la main sur des bulletins de des rapports glanés dans les bureaux de vote. Et tenez-vous bien, il y avait des procès-verbaux, voilà, c'est le terme, les procès-verbaux. Il y avait des procès-verbaux qui étaient déjà signés par des représentants même de partis politiques d'opposition sans qu'il n'y ait aucun chiffre inscrit sur le procès-verbal. Ça veut dire que moi, je suis soi-disant représentant d'un parti politique d'opposition, certainement que j'ai été intéressé d'une certaine manière, j'ai accepté l'intéressement, j'ai mis ma signature, je vous ai remis le PV, à vous d'aller inscrire le chiffre que vous voulez dessus. Et donc, je crois que là, ça met le doigt, et je crois qu'il a raison. C'est vrai que il faut dans les fiefs faire intervenir les jeunes, les sensibiliser et autres, mais je crois que la situation du Togo va peut-être au-delà de la simple question des partis politiques qui participent aux élections. Quelle est la vraie volonté du peuple togolais? Quelle est la vraie volonté de la jeunesse togolaise pour le changement? Est-ce que les gens sont vraiment déterminés à aller au bout de l'action? Est-ce que les gens qui disent, par exemple, moi je suis là pour un parti politique d'opposition, même si ce parti politique d'opposition ne me sert pas à manger le jour de l'élection, parce que j'ai entendu des gens le dire, oui, à Dole Ounia, à Unir Tova, Onam Loudoua, ah, donc j'accepte. Si vraiment on est engagé, moi je peux aller dans un centre avec un bol de gari et une bouteille d'eau, et tenir toute la journée, parce que je sais ce pourquoi je suis là, et je sais ce que je suis.
Mais sur le plan politique, est-ce que cette conviction ne manque pas vraiment, professeur?
Est-ce que
cette conviction, la conviction politique, c'est-à-dire telle que vous l'avez
tout
dit,
à fait, tout à fait, ça non, ne manque c'est, pas. C'est pour ça que je dis que ça va au-delà des partis politiques. C'est vraiment une question sociétale, et ça met également en évidence ce que des gens ont dit tout à l'heure parmi les auditeurs. Nous avons le sentiment qu'aujourd'hui, au Togo, nous avons beaucoup plus cultivé les contre-valeurs. Les valeurs de dignité, de respect, de légalité, etc., etc., sont en train d'être transformées. Et les modèles que nous avons, c'est l'opulence, en tout cas trouver de l'argent, quels que soient les moyens. Et c'est souvent l'image que ceux qui sont à la tête de ce pays envoient. Et je pense que les jeunes se disent que c'est peut-être ça les vraies valeurs, alors qu'en réalité, ce sont les contre-valeurs.
D'accord. Merci beaucoup, professeur. Oui, Ambrose.
Oui, avant de répondre aux éditeurs, je voudrais
d'abord dire rapidement, parce que nous n'avons plus assez de temps.
Qu'il y a plusieurs conditions qui entourent les élections. Le découpage a été inique depuis le début et discriminatoire. Il faut corriger ça. Le vote multiple, tout ça, il faut annuler ça dans le code électoral. D'ailleurs, vote par mandat, procuration, là. C'est l'autre méthode que le pouvoir a trouvé pour pouvoir frauder et accéder à tout. Là, on voit que dans tous les bureaux de vote, pratiquement, ils ont été en tête. C'est à cause de ça. Il faut annuler tout ça là. Et que la CENI aussi soit réorganisée et que les autres membres qu'on a recommandés puissent intégrer la CENI. Maintenant, il faut qu'il y ait un dialogue sincère dans ce pays pour une fois. Pour celui qui m'a demandé si je suis... D'abord, je le salue. La HAC m'a déjà une fois convoqué. Bon, je ne voudrais pas rire, mais j'ai été suspendu dans ce pays pour 4 mois. J'ai été suspendu moi-même en tant qu'individu journaliste. C'est la première fois au Togo qu'on suspend un journal et son directeur en même temps. Ça veut dire que dans cette période, je ne peux jamais même aller sur une radio ou aller animer une émission sur une télévision. Brandir ma carte de journaliste. Et donc, ça a été une période de péril dans ma vie, mais c'est une expérience qu'on a franchie. Mais nous avons déposé un dossier au niveau de la Cour d'études de la CDAO qui suit son cours. Si on interpelle l'État togolais qui n'intervient pas, tôt ou tard, il viendra répondre parce que j'ai été victime d'une injustice. Ce que j'ai dit, c'est la vérité. Et après même un mois, ils ont répété ça.
Merci, Ambrose.
Donc, monsieur, j'ai été convoqué au moins 2 fois au niveau de la HAC. Mais je ne suis pas mort, je suis vivant.
D'accord, oui, je pense que vous avez déjà donné la réponse. Et merci, professeur. Un mot pour la fin de cette émission.
Un mot pour la fin. Nous avions espéré pouvoir communier avec les familles de victimes demain vendredi. Cela nous a encore une fois été refusé. Nous avons finalement pris acte, mais toutefois une lettre ouverte de protestation est adressée aujourd'hui au ministre de l'administration territoriale. J'espère que vous en prendrez connaissance. Nous allons revenir à travers un communiqué pour communiquer justement sur la prochaine date qui va être retenue. Et j'espère que cette fois-ci, nous aurons la possibilité de communiquer.
D'accord.
Et nous allons inviter l'ensemble du peuple togolais à se mobiliser.
D'accord. Merci beaucoup, professeur David Dosset, d'être passé dans cette émission. Ça fait plaisir de vous avoir dans cette émission. Je rappelle que vous êtes le porte-parole du Front citoyen Togo Debout. Merci d'être passé dans cette émission. Merci, Ambroise Kondo, d'être passé dans cette émission. Vous êtes le directeur de publication du journal des Guadiens. Merci. Merci à vous tous qui nous avez suivi puisque nous sommes à la fin de cette émission. Merci à Thomas et Tech aussi d'ATV qui a assuré la mise en onde. Jérôme Dakouti a été à la mise en ligne. Je suis Pascal Lossou. Je vous retrouve demain vendredi à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.
Cette émission vous a été offerte par la bière Weichsteiner, aussi nommée Sikavi, est une bière internationale d'origine allemande depuis 1753. Distribuée au Togo par la SNB. Weichsteiner, la vie dorée.